Le livre des Nombres, chapitre 11. Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. Au nom de Jésus. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur les 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 70 anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa aussi sur eux, et ils se mirent à parler comme des prophètes. En plein camp, un jeune homme courut avertit Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. » Josué, fils de Noun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon maître, fais-les cesser !» Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ?» Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Amen. Comme nous avons maintenant l'habitude depuis un bon bout de temps, vous avez sûrement remarqué que je fais une tournante dans le choix des textes pour la prédication chaque dimanche. Alors en ce jour, le tour tombe sur l'Ancien Testament. Et si nous avons suivi la lecture, nous pouvons dire que c'est un récit très riche en si peu de versets. On peut dire qu'il y a de la matière, il y a de quoi même à faire plusieurs soirées d'études bibliques là-dessus. Notre péricope est la suite d'une conjoncture difficile. Parce que précédemment, même si on n'a pas le temps de tout lire, le peuple réclamait de la viande à Moïse. Ils étaient au bord d'une mutinerie contre Moïse, car ils avaient marre de manger la manne. Et écoutez bien ce qu'ils ont dit, que leurs gosiers sont desséchés et leurs yeux ne voyaient que de la manne. Et quelques-uns qui pleuraient même dans son camp, en mangeant la manne. Vous imaginez un peu comme un enfant qui boude. Pourquoi toujours ces légumes, ces légumes, ces légumes? Et alors le pauvre Moïse, lui aussi à son tour a piqué une crise de colère. C'est un humain. En criant, pourquoi me fais-tu du mal, Seigneur, à moi, ton serviteur? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal à ce peuple pour que ça tombe sur moi, la colère de tout ce peuple? Quelle était la réponse de l'Éternel? Étonnant comme réponse. Il lui a ordonné de choisir 70 anciens et de les amener devant la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle, afin que l'Éternel puisse prélever un peu de souffle de Moïse et les transférer sur les 70 anciens. Voilà la réponse à sa prière. Drôle de réponse. Ce fut la réponse à la prière de Moïse, afin que la charge soit partagée. Cette histoire est vraiment impressionnante et il faut aller avec les pincettes lorsqu'on fait l'interprétation pour ne pas tomber dans une interprétation, on va dire, superficielle. On peut se poser la question d'abord, est-ce possible que Dieu prélève une partie de l'esprit d'une personne et la partager avec un autre individu? C'est la première question pour un simple lecteur. Mais, justement, il faut regarder un peu toutes les versions de la Bible. Et j'aime bien la traduction qui a été prise par le français courant et la NBS en même temps. Ils sont la même. Ils utilisent le même terme « souffle » et non « esprit ». Cette nuance est très importante. Ce souffle-là est comprise comme l'onction de Dieu, Et quand on parle d'onction de Dieu, c'est une image. L'onction, c'est une image qui exprime l'élection de Dieu. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive à Moïse. Si vous avez eu le temps de lire un peu l'histoire de Moïse, le récit de Moïse, au tout début de l'histoire de la vocation de Moïse, rappelez-vous, lorsque l'Éternel est venu vers lui et l'a appelé pour sauver Israël, il a d'abord décliné l'appel. Et c'était quoi son excuse ? J'ai un problème de bégaiement. Je ne sais pas parler. Et alors, pour y remédier, l'Éternel lui a suggéré son frère Aaron. Puisque c'est ton problème, pas de souci, je vais te donner Aaron et c'est lui qui sera ton porte-parole. Mais je crois que ça vaut la peine de lire cette histoire parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans cette histoire entre Moïse et Aaron. Je vous invite, ceux qui ont leur Bible sous leurs yeux, dans la main, Exode chapitre 4. Je vais le lire lentement pour ceux qui n'ont pas de Bible dans leurs mains. Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Au nom de Jésus. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur, je ne suis pas un orateur. Je ne l'ai jamais été, et je ne le suis pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Voilà le problème de bégaiement. Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. » « Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Et dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. » Voilà la version courante, français courante, mais dans la version NBS, il est écrit « Tu lui mettras les paroles dans sa bouche. » C'est Moïse qui va mettre la parole dans sa bouche. Étonnant comme remarque. On voit déjà ici à la fois cette idée de transfert, mais aussi de mise en commun de l'élection de Dieu. Et donc si l'histoire se répète, depuis la vocation de Moïse jusqu'ici, il ne trouve aucun inconvénient pour Moïse de voir d'autres personnes partager avec lui la direction de son peuple. Au contraire, pour lui, c'est un grand soulagement. C'est une réponse à sa prière. Pour Moïse, qui dit partager l'élection de Dieu, c'est partager les responsabilités, partager les tâches, et aussi les difficultés, les soucis, les tracas, les blâmes du peuple. Voilà aussi partager l'onction de Dieu. Ce n'est pas juste l'honneur, ce n'est pas juste le titre d'homme de Dieu, mais de recevoir aussi les blâmes du peuple. Mais en même temps, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tout, il faut tout partager, il faut tout prendre en bloc, pas sélectionner ce qu'on veut. Et c'est vraiment cela, être en communion, partager les joies, partager les succès, partager les victoires, mais aussi les revers du ministère, qu'on n'aime pas trop. La persécution, partager la persécution, partager les reproches, partager les insultes, comme Moïse l'avait vécu. Mais Josué, lui, il était un peu égoïste. Il veut se montrer jaloux pour son maître. Mais est-ce vraiment pour Moïse qu'il avait fait la réflexion « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » lorsque Eldad et Médad faisaient les prophètes dans le camp. Et en scrutant la réaction de Josué, il craignait finalement pour lui, mais pas pour Moïse. Pour sa place, il est menacé dans sa place parce qu'il était l'auxiliaire de Moïse. C'était le prétendant pour remplacer Moïse. Donc, il se dit, s'il y a un qui se démarque, je serai déstabilisé. Et oui, voilà les faiblesses aussi des serviteurs de Dieu. Même le grand Josué. Je dis cela parce que l'allusion, elle est trop forte dans la façon dont l'auteur donne une précision. Pourquoi l'auteur donne une précision sur la fonction de Josué, qu'il était auxiliaire de Moïse? On voit entre les lignes qu'il a un problème avec sa place. À qui bon de savoir à propos de ce détail, si ce n'est pas mettre en contraste avec Moïse? L'auteur fait un contraste entre Moïse et Josué. Moïse qui est contrairement à lui, si ravi, si content que tout le monde puisse devenir des prophètes. Et d'ailleurs, il est dit dans le livre des Nombres, au chapitre 12 suivant, au verset 3, « Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Un grand homme de Dieu, mais qui est très humble. Mais soyez rassurés, nous n'allons pas faire que de l'éloge de Moïse ce matin, mais ce qui nous intéresse, c'est ce genre de partage que Moïse avait vécu avec les autres. Cela, je crois, fait largement écho à ce que Jésus a fait pour nous aussi. Comme avec l'histoire de Moïse de tout à l'heure, Jésus nous appelle aussi à tout partager avec lui. L'apôtre Paul le dit clairement, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et il y a pas mal de références bibliques qui vont dans ce sens, comme dans Éphésiens, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Avant d'être glorifiés avec le Christ, il faut souffrir avec le Christ. Et c'est ça qui nous dérange. On veut être glorifié avec lui sans passer par la souffrance avec lui. À part ces références bibliques qui nous assurent que le Seigneur veut tout partager avec nous, sa gloire, son titre, son royaume, même son Père. Cela implique aussi que dans l'autre sens, nous devons être aussi prêts à tout supporter avec lui. Mais je tiens à préciser, ce n'est pas une condition, ni un prix à payer pour bénéficier tout cela, mais quand on dit que nous partageons tout avec le Christ, c'est que sa vie sera aussi notre vie. Alors Paul nous dit aussi clairement, en effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui. J'aime bien ce verset, Philippiens chapitre 1, verset 29, retenez bien, non seulement de mettre votre foi en lui, ça tout le monde est d'accord, ayez foi en Jésus. Mais il y a la suite, mais aussi de souffrir pour lui. Ça, on passe vite quand on lit ce texte. Voilà partager la vie du Christ. Tout. Et cela, nous n'en voulons pas. Nous voulons juste partager ce qui est bon, ce qui nous fait plaisir. Mais la question, es-tu prêt à tout partager avec le Christ? Puisque lui, il te donne tout. C'est là la logique. Il te donne sa vie. Il te donne même son nom. Il te donne même le titre enfant de Dieu. Il te donne aussi son Père. Alors, à son tour de te poser la question, es-tu prêt à tout partager avec moi, mon fils, ma fille? Es-tu prêt à pleurer avec moi? Es-tu prêt à souffrir avec moi? Es-tu prêt à porter ta croix avec moi? Es-tu prêt à traverser la Samarie avec moi? Es-tu prêt à être insulté si les gens te voient avec les païens, avec moi? Es-tu prêt de tout partager? Le problème ne se situe pas du côté de Jésus, mais de notre côté. Le grand problème, c'est que nous n'osons pas tout partager, juste une partie. Mais c'est ça, accepter le Christ comme Seigneur. Tout partager. Il avait demandé à ses disciples un jour de veiller avec lui lorsqu'il était en train de se battre. Regardez bien l'égoïsme des disciples. Il était en train de se battre contre la tentation d'éloigner la coupe amère qu'il devait boire. Mais hélas, le Christ se sentait si seul. Et écoutez ce qu'il disait. « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. » C'est un cri de désespoir. Il arrive à la fin de son ministère. Il a tout donné à ses disciples pendant 3 ans. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Ils ont vu des miracles. Et à la fin, ils n'ont pas pu veiller même une heure avec lui. Mettez-vous à la place du Christ. C'est comme un coup de poignard dans le dos. Merci Seigneur, tiens! Sommes-nous prêts à partager les mêmes préoccupations du Christ? Ou bien nous nous disons, « Oh, seuls tes bienfaits, Seigneur, qui m'intéressent. » Amen.